Original avec Morgan Cadignan, avec Marina Rollman. Tout à l'heure, Tanguy Pastureau, Daniel Morin est à mes côtés. Et nos invités sont Jacques Audiard et Ron, s'il vous plaît. Jacques Audiard et Ron qui viennent nous parler d'un film en salle demain, Les Olympiades. Un superbe film, je crois qu'il fait l'unanimité autour de la table.
Formidable.
Voilà, on va en parler davantage avec nos invités dans un instant.
Oh mais non, le blind
test. Si, le blind test,
oui,
d'après vous.
Alors, que des sons de drone, on va se marrer.
Que des sons de drone, non.
Ça va durer 4 heures.
On aurait pu, j'aurais pu être bislard à ce moment-là, mais je l'ai pas fait.
Des fleuves.
Les Jeux Olympiques, parce que le quartier des Olympiades est construit en lien avec les JO, mais non.
Le 13e arrondissement.
Non plus.
Le noir et blanc.
L'amour, le trio, les trios.
Non, pas les noirs et blancs, pas les couleurs. Allez, on fait le premier, vous allez deviner.
Ce quartier.
Daniel, Léo Ferré.
Bravo.
Quartier de Panama.
Ah, d'accord.
Quartier latin.
Quartier latin.
On va jouer avec Cartier, oui.
Cartier latin.
Un point pour Daniel.
Et voilà. Et oui, Marina.
Oui, les Olympiades, c'est un quartier de Paris, oui, dans le 13e arrondissement, pour ceux qui nous écoutent, que Daniel connaît parfaitement.
C'est chez toi.
Deuxième titre.
Il existe un domaine dans lequel je n'ai pas d'égal. La matière première est à l'impact musical. Cassant le vent, le temps, les
cicatrices,
les
cicatrices.
Non, c'est cassant des queues,
même au MC Solar. Qui a dit MC Solar?
C'est Marina.
C'est Marina. Et le titre?
Mon quartier?
Non.
Au quartier?
Non.
Dans le quartier?
C'est pas le quartier.
Quartier? Quel quartier? Quartier connu à Marseille, c'est
quartier Nord.
Parfait. Quartier Nord pour Marina.
Elle m'a aidé. Non, c'est un demi-point.
Ça, je te donne un point quand même. Voilà. Je te donne un point. Quartier Nord, Marina. Troisième titre.
Il me faut la voix. De manière générale.
J'écris des trop souvent, j'aimerais m'en aller.
Vous avez un indice,
c'est un Joule.
Ouais, bravo, Marianne. Et le titre,
c'est Quartier Nord.
Parfum quartier.
Parfum quartier. J'écris mon texte
dans le quartier. Quatrième titre. J'adore, moi, et c'est très France Inter. Écoutez bien.
Vincent Delerme.
Benjamin Biolay.
Pour une.
Bertrand Belin.
Daniel?
Oui.
Dominica?
Oui.
Ah, c'est beau, bravo. On les a dit
Daniel.
Tous autour.
Dominica, les hauts quartiers de peine. Merveille. Je laisse un peu.
Oui.
Et non, je le coupe.
Ah non.
Morgan.
Ouais.
Carla Bruni.
Bravo, Morgan.
Oh, j'adorais cette chanson.
C'est vrai, parle-nous de ça.
Le plus beau du quartier.
Regardez-moi. Je suis le plus beau du quartier. Je suis le préféré. Une belle victoire.
Deux points pour Daniel. Deux points pour Morgan. Un point pour Marina. Il reste deux titres.
Allez.
C'est pas encore super banco. C'est parti.
Je colonise Morgane, Edith Préto, quartier des Lunes.
Bravo, Morgane, oh, c'est bon. Edith Préto. Et toute seule sur le coup là. Quartier des Lunes. Et le super banco, tout peut se jouer. 3 points pour Morgane, 2 points pour Daniel, 1 point pour Marina. T'es prêt?
Ouais.
Ça va être très rapide.
Mais non, parce qu'on est très mauvais.
Non.
C'est très lent.
Mais non. On joue autour du mot quartier dans ce blind test.
On te dira que
Morgan, Maya,
oui, bravo, Morgan.
C'est
le titre. Tu veux que je reste au quartier?
Non.
Le quartier, rester au quartier.
Au quartier.
Au quartier.
Et c'est une victoire.
Mais ça faisait hyper longtemps.
Morgan Cadignan. Et on accueille nos invités Jacques Audiard et Ron.
France Inter. La bande originale. Leïla Kaddou.
Ron arrive en courant, en pleine forme. Bonjour messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus, bonjour, au micro de la bande originale. Comment ça va ce matin?
Très bien.
Ouais. À la veille de la sortie de votre film Les Olympiades, c'est une première à ce micro. Merci de venir nous voir et de nous parler de ce film qu'on a adoré, tout simplement. On vous fait une petite déclaration d'amour, Jacques Audiard, ce matin.
Je prends.
Ouais. C'est difficile de raconter ce film parce que on n'a pas vraiment envie de le raconter à part dire qu'on a trois personnages, plutôt quatre même, et le quatrième personnage a une importance considérable dans ce film. Une histoire ce sont de jeunes adultes qui travaillent tous, qui sont tous face à la difficulté de vivre, de se loger, de finir les fins de mois, et puis d'aimer. En revanche, ils désirent beaucoup, et on est vraiment dans une forme d'ode, Jacques Audiard, à la vie, à l'épanouissement. Moi, c'est ce qui m'a...
Vous en parlez très bien, je trouve.
Ça m'a séduit.
Voilà, je n'ai rien à ajouter.
Vous allez quand même participer, parce que c'est une amie.
Il y a le taux nécessaire de louange, j'adore.
Ouais. Mais c'est l'histoire, en tout cas, telle que, qu'elle m'apparaît.
Bah, vous avez raison. Non, ça me semble que j'ai pas grand-chose à ajouter. Oui, c'est des gens qui sont un peu flottants.
Ouais.
Donc voilà, c'est un monde de jeunes adultes flottants.
Parfois un peu instables, en tout cas, ne sachant pas trop où aller.
Et qui se trompent, ils se trompent sur eux-mêmes.
Ouais.
Voilà, et l'histoire va leur apprendre à rectifier le tir.
Et qui se racontent aussi beaucoup, parce que
Ils se racontent aussi beaucoup de salades.
Oui, c'est vrai.
Ils se mentent à eux-mêmes.
Ouais.
Voilà.
Et vous décidez de filmer cette histoire-là à Paris, mais pas dans n'importe quel Paris.
Oui, à Paris, dans le 13e.
Ouais, le 13e arrondissement. Alors pour...
C'est incroyable, je fais une promotion du 13e arrondissement.
Ouais,
ça va être le 13e, ça va être un peu le Montmartre d'Amélie Poulain,
oui,
je crois.
Ça.
Personne ne connaît le quartier des Olympiades.
Personne ?
Ben personne. Bon.
C'est un quartier que les touristes connaissent peu, déjà, c'est pas vraiment dans le circuit habituel.
Le circuit de Chinatown, non ?
Non, je sais pas. Moi, c'est un quartier que j'aime beaucoup. J'y ai vécu longtemps et j'y suis très attaché. C'est un quartier de Paris qui a beaucoup bougé. C'est un des rares quartiers où ça a beaucoup construit. Ça s'est élevé, voilà.
Et oui, que c'est vrai que
par rapport à la trame un peu haussmannienne, romantique, muséale, le 13e propose vraiment autre chose. Et puis, il y a vraiment une mixité, quoi.
Oui, c'est riche de culture, c'est riche de différences. Et en effet, le paysage proposé par le 13e arrondissement, on a la sensation de se trouver dans une mégalopole éventuellement asiatique.
Oui, tout à fait. On a le sentiment, c'est ce que j'aimais bien dans les tours, quand vous filmez l'extérieur depuis une tour. Nous, on tournait dans une tour, c'était la tour Osaka, quand même. Oui. C'est déjà des paysans. Et c'est vrai, on a tout à coup un point de vue sur une métropole qui n'est pas Paris.
Et quand on est sur la dalle des Olympiades, on a l'impression qu'on n'est pas du tout à Paris. De toute façon,
oui,
on est complètement
compte, tourné, et tout ça pour le prix d'un billet de métro.
C'est une vraie bonne promo, ça.
Je pensais pas que vous alliez faire ça.
Je suis le promoteur de la ligne 6. La plus belle ligne de métro de Paris.
Et cette histoire, ce cadre-là, on va en parler aussi du noir et blanc quasiment omniprésent dans ce film parce que la couleur à un moment jaillit. Eh bien, cette histoire-là, elle n'est pas simplement racontée et donnée à voir, elle est aussi une histoire, à mon sens, musicale. Moi, j'ai entendu l'histoire de ces personnages et voilà pourquoi, Rhône, vous êtes aussi à ce micro. C'est la première fois que dans cette émission, on invite celui qui a réalisé la bande originale d'un film et on a trouvé que pour ce film-là, c'était indispensable d'avoir ce duo-là, Rhône, voilà la musique que vous avez notamment composée pour ce film. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette musique en même temps qu'on l'écoute ?
Oui, c'est amusant parce que je crois que c'est la toute première maquette que j'ai envoyée à Jacques en plus et qui est devenue un thème important, je pense, dans le film parce qu'il se développe le long du film. Mais oui, c'est peut-être le premier échange que j'ai eu avec Jacques musicalement comme ça. C'est la première maquette que je lui ai envoyée quand il m'a demandé après la projection du film, quand j'ai découvert le film, il m'a demandé de choisir trois scènes à mettre en musique, de lui envoyer ça en trois jours. Et il y avait... une scène sur laquelle j'ai posé cette musique et ça lui a plu et donc là ça a commencé avec cette musique, ça m'a mis un peu en confiance, j'étais un peu, j'avais l'impression.
Est-ce qu'on est tendu quand Jacques Audiard vous passe un coup de fil ou vous fait savoir qu'il veut travailler avec vous?
Ben moi c'est un mélange.
Vous dites que Jacques Audiard est cash.
Ouais,
et quand il aime, il le dit. Et quand il aime pas, il le dit aussi clairement.
Ça, c'est vrai.
Non, je suis lâche.
C'est plutôt agréable en fait, ouais. Parce que ça va très vite. Tout le monde n'avait pas le choix. Il fallait être efficace et rapide. dans la composition de cette BO, puisqu'on avait un mois à peu près.
Ouais, c'était très court.
Mais du coup, il y avait effectivement c'était très direct, notre manière d'échanger. Mais moi, ça me plaît bien. C'est très stimulant.
Et c'est vous qui avez choisi les trois donc passages du film qui vous intéressaient pour composer de la musique?
Oui. Oui,
là, ça commence à monter en intensité, c'est ce que j'adore en fait.
Ah.
Bah oui.
Ouais.
Et vous avez choisi ces trois scènes, pourquoi? Pourquoi l'ouverture?
Ouais. Bah, c'est vrai que ça c'est marrant. J'ai fait le choix très, très intuitivement, très spontanément, très rapidement comme ça. Juste en me disant que ce serait bien que j'essaye de choisir des scènes très différentes pour essayer des choses différentes musicalement en fait. Donc effectivement, j'avais choisi la scène de la... Je sais pas à quel point on peut révéler le film, mais bon, il y a une scène de
pornographie.
Ah non, je pensais à autre chose.
C'est Leïla, elle dégaine très rapidement.
Oui, moi je pense à ça. C'est le côté très olympiade du film aussi.
C'est très très Marc Dorcel.
Je suis assez Marc Dorcel finalement.
C'est vrai que j'ai cherché des scènes assez différentes pour justement essayer des choses très électroniques, ce que je fais plutôt habituellement quand je fais de la musique, et puis aller chercher des sonorités plus organiques, ou voilà, ces espèces de nappes, des choses comme ça, avec beaucoup plus de silence.
Est-ce que Jacques Audiard, vous lui avez demandé, je sais pas, qu'il y ait des instruments en particulier? Vous aviez déjà une vision de la musique? Pourquoi est-ce que vous avez choisi Rhône déjà?
C'est parce que je le connaissais quand même un peu.
Ouais, mais voilà, nous aussi, mais après,
Le travail avec Lahore notamment.
Ah, il a son t-shirt avec ce que vous avez fait avec le Ballet de Marseille.
Oui, voilà, ça me. Oui, j'avais. Alors, c'est plutôt commencé. Le film étant urbain, j'avais envie de façon d'une musique électronique, et puis Ron s'est imposé assez vite. Mais ma toute première idée, j'ose à peine la dire, c'est que je pensais que le film, ça serait du Schubert tout le temps, la sonate, la 850 de Schubert, le deuxième mouvement. Et je peux vous dire, ça marche pas du tout.
Vous avez essayé.
Alors, ce qui est marrant, c'est que je suis passé de France à Erwan direct.
Sans transition.
Et ben nous aussi sans transition, on a beaucoup aimé donc ce film, Les Olympiades, qui est en salle demain. Mais il y a quelqu'un autour de cette table qui ne vous aime pas, Jacques et Ron. C'est Morgane Cadignan, je vous la présente. Allez. À toi.
Bonjour, Jacques Audiard. Ron, je vous aime pas. Et je parle doucement parce que c'est encore un peu le matin, les amis. Et il est encore un peu tôt pour Jacques Audiard et moi. Moi, je me suis toujours imaginé rencontrer Jacques Audiard un soir de projection à une cérémonie du cinéma, ou encore mieux, au comptoir d'un café pendant le Festival de Cannes. Un matin, et lui, il trouverait ça super mystérieux, cette fille attablée seule, loin de toute l'agitation médiatique. Qui est-elle? Que cache-t-elle? Peut-être le fait qu'elle est absolument pas invitée au festival, mais tant de mystère. Mais en tout cas, j'avais pas prévu, moi, de rencontrer Jacques Audiard un matin de novembre, en début de semaine, 8 minutes chrono après m'être renversé l'intégralité de monter sur les cuisses. Remarque, c'est Jacques Audiard, hein, ça peut lui inspirer une histoire bouleversante, le collant qui fusionne avec ma peau à cause de la brûlure, l'amputation, la déchéance sociale, réapprendre à vivre dans un monde où la théine est maintenant une ennemie, et devoir réapproviser toutes ses tasses puisqu'elle a peur de la chaleur de l'eau, mais avant tout de la chaleur humaine. Franchement, en 2018, vous avez fait Les Frères Sisters, on peut faire Les Mariages Frères. Allez, jamais trop tôt pour un jeu de mots angoissant. Honnêtement, les amis, si je peux choper un César, parce que je sais pas viser ma bouche en buvant, mais pourquoi pas. Marion Cotillard, elle a passé toute une partie de tournage en combi synthétique dans un aqualand. Je peux bien tourner quelques heures dans une odeur de verveine au gingembre. Le cinéma, c'est aussi des sacrifices, comme disait Laurent Ronac. Donc, Ron, il y a des compositeurs qui composent les musiques pour les pubs Carglass. Puis, il y a ceux qui composent les musiques des films d'Audiard et qui sont primés pour ça. Je me souviens avoir énormément écouté votre album Mirapolis en courant. Et c'est fou. Ça te transporte tout de suite dans un univers de zinzin où tu vois défiler la ville comme si elle t'appartenait. C'est fou, Ron, vous arrivez à nous parler sans aucune parole. Moi, je parle pour rien dire et vous, il n'y a que du son et on comprend tout. C'était fou, Mirapolis. Tout de suite, j'étais transportée dans un film qui racontait l'histoire de quelqu'un qui est capable de courir plus de 8 minutes. Puis après, en général, je me faisais un claquage avec aucun réalisateur à côté pour romancer ma tendinite du moyen fessier, parce que ce qui est tendu, c'est mon muscle, mais également la société au bord de l'implosion. Oh. Alors, ce matin, vous venez nous parler du film Les Olympiades, Paris 13e, quartier des Olympiades. Émilie rencontre Camille, qui est attirée par Nora, qui elle-même croise le chemin d'Amber, trois filles, un garçon. Ils sont amis, parfois amants, souvent les deux. Putain, on dirait du Jacques Audiard. Parce que dans la vraie vie, c'est plutôt Émilie rencontre Camille, qui est attirée par Nora, qui elle-même croise le chemin d'Amber. Trois filles et un garçon, ils sont amis. Et c'est tout. Parce qu'on a tous énormément trop de boulot pour penser à se reproduire, en fait. Vous savez, le temps que ça prend, le polyamour, j'ai déjà pas le temps d'aller à l'escalade, donc s'il faut me taper Marina, puis Leïla, puis Daniel, puis les trois, enfin, autant s'asseoir et boire un thé, avec un peu de chance, il y a une caméra qui tourne.
Bravo Morgane. Donc c'est là-dessus que tu t'es claqué, Morgane.
Ouais, ouais, ouais.
Et c'est là-dessus qu'on te retrouve aussi le jeudi et jusqu'au samedi sur scène.
Exactement,
à 20h au Métropole Théâtre.
Ouais,
en courant. En courant, on n'a pas parlé justement des acteurs, et ce casting aussi, il participe grandement au succès de ce film. Lucie Xang, Makita Samba, Noémie Merlan, Jenny Bess, pour parler de ces quatre personnages emblématiques et qu'on va accompagner, dont on va suivre les amours, les errances, et comme vous l'avez dit, Jacques Audiard, des petits moments mythos, en fait, à se raconter une histoire qui n'est pas la leur. Là aussi, vous donnez à voir non seulement un quartier différent, mais aussi des acteurs dans un même film, des acteurs qui représentent aussi la diversité française. Et ça, c'était aussi important dès le départ. Est-ce que c'est pas fréquent?
Oui.
C'est pas fréquent.
Vous écrivez quoi?
Je prends des notes pour vous poser des questions après. Vous le saurez bien assez tôt.
Je le saurai assez tôt. Oui, oui, non, c'était, ça faisait partie du projet pour moi. C'est sûr. Oui, puis comment le tout, comment je sortais d'un, enfin par exemple d'un western où c'était très quand même très masculin, des grands espaces, violents, pas beaucoup d'amour. Et ben voilà, c'est un petit peu le positif de ce négatif ou négatif de ce positif. Et c'est vrai que j'avais envie de voir des visages différents.
Ouais, des visages,
des corps, des façons de parler, tout.
Des visages très beaux, qui ont une véritable ciné-génie, ça aussi, ça apparaît très très fort, parce qu'il y a ce choix du noir et blanc. Et ce choix du noir et blanc, là aussi, il nous emballe, il nous emmène tout de suite dans l'aventure. Comment vous le justifiez, ce choix du noir et blanc?
Je le justifie parce que j'ai pas mal tourné dans Paris. Et Paris, je vais pas dire comme Barbara me lasse et m'ennuie, mais c'est vrai que la structure haussmannienne, le gris, ce truc un peu muséal, romantique aussi, tout ça, j'en avais un peu assez. Je crois, mettre une modernité là-dedans. Et le 13e plus le noir et blanc, c'est vrai que ça accentue les traits.
Et puis ça fait de cette histoire une histoire universelle, c'est l'histoire de jeunes adultes.
Oui, puis en plus, je pense que c'est une phase, le noir et blanc, c'est une façon d'étaler, de métaboliser la diversité.
Ouais.
Oui. Il est partout.
Il est partout dans ce film. D'ailleurs, initialement, dans le projet, il devait quoi? Composer une vingtaine
juste
de minutes?
Juste deux, trois notes et tout. Et là,
c'est ça, Jacques Audiard. Initialement, Rhône devait composer quelques...
Oui, je dis tellement de bêtises.
C'est vrai que notre première rencontre, Jacques m'avait parlé de... il m'avait parlé de 25 minutes de musique.
C'est dur de dire à quelqu'un, tu sais, t'as un mois pour faire tout ça, alors vous dites, putain, t'as un quart d'heure, entre un quart d'heure et 20 minutes, sinon il s'en va en
c'est
courant.
Jouable, c'est jouable.
Ah,
c'est jouable. Regarde-moi dans les yeux, c'est jouable.
Ouais. Et dis-moi oui.
Moi, justement, c'est drôle parce qu'effectivement, après l'envoi des premières maquettes, moi j'ai pris ça quand même compliment. Il m'a dit, en fait, on va mettre beaucoup plus de musique. Mon première réaction, j'étais super content en me disant ça lui plaît, c'est génial. Et après, j'ai eu un petit coup de flip. Ça va être.
Il y a combien de minutes au total?
C'est 30 minutes. Ah,
je crois que c'est presque 50 minutes de musique.
C'est du simple au double en fait. Et est-ce que comment vous avez travaillé les personnages? Parce qu'une fois que vous vous êtes vraiment emparé de la totalité du projet, il y a non pas des thèmes pour chaque personnage, mais on sent quand même une ambiance sonore qui correspond, que ce soit au personnage de Lucie, de Makita, de Noémie ou de Jenny.
Oui, en tout cas, c'est vrai que moi, ça passe d'abord par une recherche de texture sonore, je crois, avant la recherche de mélodie.
Oui.
Et donc, il y avait peut-être comme ça une espèce de...
Pour Nora, par exemple, pour le personnage de Noémie Merlan, qu'est-ce que vous aviez en tête? Parce qu'en fait, il faut quand même expliquer que vous venez du cinéma, vous avez fait des études de cinéma et que vous composez aussi un peu comme un cinéaste, on va l'expliquer. Pour Nora, vous voyez quoi pour elle?
Alors bon, Nora, moi, ce personnage m'attachait beaucoup. Je me suis beaucoup attaché à. Pardon.
Elle vous attachait. Ouais, c'est intéressant.
On en parlera tout à l'heure.
C'était intéressant ce tournage, apparemment.
Non, mais il y avait cette espèce. Je voyais en elle une espèce de naïveté, un peu de. C'est super dur de parler du film devant le réalisateur, mais je dirais un peu. Il y avait le côté un peu. La provinciale qui arrive à Paris et qui est un petit peu et qui est avec plein de rêves, et donc il y avait quelque chose d'un peu naïf en elle et tout ça, donc je suis allé chercher peut-être des sonorités un peu fragiles comme ça, un peu joyeuses aussi, parce qu'il y avait une espèce de
de joie aussi dans sa première apparition dans le film. Donc,
oui, elle est rayonnante, elle est lumineuse, elle a un passé douloureux, elle vient un peu retenter une nouvelle chance de vie à Paris, en fait. C'est aussi l'aspiration de la provinciale dans la capitale, en fait.
Qui monte à Paris,
justement, pour effacer l'ardoise et recommencer une nouvelle vie. C'est aussi cette dimension-là. Vous l'avez guidée, Jacques, justement, en donnant...
Pour l'écriture, ouais. Hein, bah, c'était un dialogue, comment c'était un peu à flux tendu, vous voyez, donc je me souviens plus bien. C'est vrai, en fait, ça s'est passé très vite, il l'a dit lui-même.
Non, mais c'était des échanges, vraiment.
Oui, des échanges, voilà.
Sur la matière, moi j'envoyais la c'est ça qui
était. Il m'envoyait des dossiers, on les calait puis on lui disait ça va pas, là, c'est ça. Le plus aimablement possible.
Mais vous êtes aimable, Jacques.
Non.
C'est vrai.
Ça dépend.
Si, je suis très agréable.
J'imagine.
Je gagne à être connu.
C'est pour ça qu'on vous invite. Ouais, ce scénario, vous l'avez aussi travaillé à plusieurs.
En deux temps. C'est que j'ai commencé avant le film précédent, avant les Sister Brothers. Je voulais avoir un scénario écrit. Pour la sortie, enfin, que je sois pas les poches vides après le film. Et donc, j'ai travaillé avec Céline Sciamma. On a fait des versions. Et puis, quand je suis sorti du western, Céline travaillait. Elle était plus libre. Donc, j'ai travaillé avec Léa Missius. Et puis, c'est la version que vous avez vue.
Et tout part d'une bande dessinée?
De trois nouvelles, je sais pas comment ça se dit, de trois nouvelles graphiques d'Adrien Tominet, qui est un New-Yorkais.
Et qui raconte l'histoire de l'errance aussi de
Oui, c'est
des
errances, ce sont des personnages, c'est le terme que j'utilisais tout à l'heure, ce sont des personnages assez, c'est des personnages flottants, il a un sens dominé, un sens de l'ellipse assez fort. Et en fait, le gros travail d'adaptation, ça a été de créer un personnage, c'est de créer le personnage de Camille, dans le film, qui n'existait pas chez Tominé, qui fait le lien entre tout, qui fait la couture.
Ouais, qui est un personnage très attractif, Camille. Et en même temps, qui passe son temps à errer lui aussi amoureusement.
Oui, il est attractif, il est charmant, un peu ridicule, un peu sûr de lui.
Un peu conscient qu'il est beau.
Oui, puis intelligent et cultivé, voilà, ouais. Il vous en met un petit peu plein le truc. Mais voilà, jusqu'au moment où il se prend les pieds dans le tapis, quoi, c'est tout.
Et c'est le seul personnage masculin, et il n'est pas forcément très
masculin,
en valeur.
Masculin, je trouve qu'il est... oui, enfin bon, il y a un sexe, mais je le trouve très féminin en fait, le personnage de Camille.
Pourquoi ?
Bah, je trouve qu'il a quand même une espèce de douceur, je trouve qu'il a un charme assez féminin.
Oui, il vous a envoûté vous aussi.
Il
n'est
pas voilà, il n'a pas une revendication de virilité considérable. Oui, vous êtes d'accord ?
Ils ne sont pas inscrits. De toute façon, tous autant qu'ils sont, ils sont dans cette recherche justement de l'amour, du désir et des expérimentations aussi, parce que on n'a pas encore parlé d'un personnage que je trouve essentiel. C'est le personnage de Jenny Bess. Alors je ne sais pas ce que vous voulez en dire, Jacques Coudière. Pour pas.
C'est le personnage. Tu voulais dire quelque chose?
Ah non.
Je sentais tout à coup. Le personnage d'Amber, c'est le personnage qui est lointain, qui n'apparaît qu'à travers l'ordinateur. C'est une cam girl.
Une cam girl, j'explique, c'est une femme contre rémunération sur Internet.
Qui fait de la pornographie contemporaine.
Voilà.
Et c'est le personnage qui, en fait, qui va modifier le destin de tout le monde.
Oui. Voilà.
C'est celle qui fait tomber les dominos.
Oui. Et c'est elle, a priori, qui est à distance par les écrans.
Voilà.
Et qui finalement.
Et c'est la seule personne qui sait exactement ce qu'elle est.
Oui.
Elle est conforme. Voilà.
C'est ce que j'ai aussi aimé dans le film, c'est qu'il n'y a pas de jugement sur la façon dont aujourd'hui on consomme le sexe.
On aime.
On se rencontre.
J'ai pas de jugement. Le film éventuellement pose une question, c'est de savoir où est le discours amoureux aujourd'hui.
Oui.
À partir du moment où on couche le premier soir, est-ce qu'il y a la place à ce romantisme-là, voilà.
Où
est Barthes, voilà.
Et est-ce qu'il vient après ce discours éventuellement, ou est-ce qu'il vient jamais?
Il vient forcément après, et probablement sous une autre forme. Moi, mon modèle, c'était Ma nuit chez Maud de Romer, où des gens parlent beaucoup, et ne feront pas l'amour, voilà, parce qu'ils auront, voilà.
Ils sont tout dit.
Le discours aura érotisé tout. Ben là, c'est l'inverse.
Là, c'est l'inverse. Les Olympiades, c'est un très très beau film en noir et blanc, avec un travail de la photographie aussi. On en parle. pas suffisamment, qui est exceptionnel. On est plongé dans ce Paris qu'on connaît assez peu, en réalité, et dans ces histoires d'amour qui nous rappellent un petit peu... et Morgane, ça t'a pas mal touchée?
Non, mais moi, j'espère qu'il y a plein de gens, j'ai 30 ans, j'espère qu'il y a plein de gens et plein de mes amis et de gens de mon âge qui vont voir ce film, parce que quand je l'ai vu, ça m'a bouleversée. C'est un espèce de condensé de toutes les discussions que j'ai avec mes potes à chacune de nos soirées, quand on se raconte à quel point on sait plus trop comment s'aimer.
Putain, mais je vais assister à ces soirées, moi.
C'est vrai.
Mais invitez-moi, mon
non,
Dieu.
Non, mais c'est des solitudes qui se rencontrent.
Je suis dans un état de solitude considérable.
Si vous êtes sympa, Jacques, on vous invite.
Mais Jacques, si vous voulez profiter de cette antenne pour passer une petite annonce,
ça y est, je vais
rechercher soirée.
Les Olympiades, c'est un très très bon film qu'on a beaucoup aimé. C'est en salle demain. Et tout de suite, c'est Marina Rollman.
Ah, et oui. Bonjour les amis, bonjour. Aujourd'hui je viens pour faire mon mea culpa, me suis trompée. Des années que je traîne sans vergogne les mamelles du féminisme facile, en blâmant les hommes cis, hétéros de tous les maux du monde. Or je me fourvoyais car vous souffrez tellement messieurs. Je m'en suis rendu compte car cette semaine je jouais dans une salle à Lyon où tous les mecs qui bossaient étaient beaux. Les techniciens, tout le monde à sa manière sublime. Et je leur ai dit... Et ils étaient là, ils ne savaient pas, ils ne voulaient pas l'entendre, ne pouvaient pas le croire, étaient mortifiés qu'on leur dise. Et je me suis dit, mais quelle prison dans laquelle vous vivez de pas avoir le droit de vous aimer comme ça. Parce que c'est profondément ancré en vous cette histoire, ça commence très tôt, petit déjà, le gamin cis-hétéro ne peut pas faire quoi que ce soit qui tendrait vers le beau. Un foulard, une jolie coupe de cheveux, une démarche un peu gracieuse, qu'est-ce qu'on lui dit? Ah, tu suces des bites! Et le gamin il dit, mais non! Et les autres lui disent, c'est exactement ce que quelqu'un qui suce des bites dirait! L'homosexualité comme insulte suprême, mais déjà prenons ça là. Alors l'homophobie c'est très grave en soi pour la communauté LGBT, mais c'est aussi très grave pour le message contradictoire que ça envoie aux gars cis hétéros. T'es censé adorer un pénis, le tien, le dessiner partout dès le CE2, être obsédé par le projet de lui faire voir le monde, en faire des blagues constantes, mais jamais, jamais t'approcher d'un autre. Ça, c'est le mal absolu. Et on voit bien déjà la tension énorme que ça crée, qui donne naissance à ces espaces de liberté ambiguës que sont la lutte, le bras de fer ou le rugby, où enfin on vous laisse flirter avec l'idée de toucher des corps qui vous ressemblent, de jouir un instant de cette physicalité. Oh oui, qu'est-ce que t'es beau, qu'est-ce que t'es fort. Mais pour la peine, vous repartez avec un cocard. Il y a quand même une punition. Pendant que nous, on a le droit de se faire des tresses ou du yoga, ou juste d'arriver en soirée et dire à une pote, mais qu'est-ce que t'es bonne, en lui tâtant les seins, on ne se prend pas des patates, parce que ça
c'est quoi vrai. Ces soirées
tu veux être invité toi aussi
parce qu'en plus on ne vous laisse rien faire pour vous améliorer, c'est ça qui est difficile quand on est un homme, un mec si c'est hétéro au max, si il a le droit de faire pour se faire beau, mettre une chemise, voilà, tout le reste c'est posé à la naissance, il n'y a rien à faire. Mais quelle tristesse de ne pas pouvoir se célébrer, s'amuser, se transformer, de ne pas pouvoir jouer de son apparence. Le seul truc éventuellement qu'on vous autorise un peu, c'est la gonflette, et encore après on se moque. On dit, hey, t'as fait de la gonflette. Et les mecs, ils sont en train d'exploser leurs t-shirts comme ça, ils sont là, pas du tout. Mais bon, ça, en vrai, c'est comme les femmes. On prend soin de nous, on se moque, on dit qu'on est des cocottes. On prend pas soin de nous, on se moque, on dit, ah, vous êtes des tromblons. Donc, il faudrait peut-être qu'on se mette en face de la réalité qui est, on est juste des milliards de gens moches à essayer de se faire beau. Des babouins avec du rouge à lèvres et des trottinettes, quoi. Après, je me suis dit, mais en fait, peut-être que les hommes cis-hétéros ne peuvent pas savoir qu'ils sont beaux parce qu'ils bosseraient plus. Si vous preniez conscience de votre charge érotique, mais les chantiers seraient des énormes partous, les sous-marins remonteraient à la surface à cause de la buée, les camions de pompiers, bon bah là, carrément, on mettrait des caméras, hein, ce serait con de pas montrer ça au monde, tu vois. Et donc, peut-être que l'homophobie a été inventée pour que les hommes travaillent, ne s'aiment pas et donc subliment cette douleur vers le dehors en faisant des ponts, des routes, des fusées en forme de pénis. Oui, parce que ça, parenthèse, je suis toujours pas remise des milliardaires dans l'espace. Quelle épopée tragique. Nous, on est là. Attention, hein, je mets pas de paille dans mon Perrier parce que je fais gaffe à la planète. Alors que Branson et compagnie, ils en ont plus rien à carrer. Ils font des vols qui équivalent à 700 Paris-New York pour aller nulle part. Ils s'en foutent. Mais attention, on fabrique des voitures électriques. Mais bref, Jeff Bezos, par exemple, qu'est-ce qu'il nous dit avec son phallus cosmique? Puisque je ne m'aime pas, je baise l'univers. Vous me trouvez risible, eh bien regardez-moi me taper le cosmos. Et nous, on mate sa sextape comme ça en disant, mais quel grand homme, quelle belle avancée pour la science. Et donc j'y reviens, a-t-on assez dit aux hommes qu'ils étaient beaux? Les hommes qui s'aiment vraiment font-ils la guerre? Donc voilà, le salut viendra, je crois, d'un amour radical et universel. Et pour pouvoir donner ça, faut commencer par s'aimer soi. Donc messieurs, vous êtes beaux. Kiffez-vous plutôt que de construire des fusées, ça pollue moins et en vrai c'est plus sexy.
Bravo, Marina.
C'est beau, Daniel.
Bravo, Marina. Et Marina, tu es en tournée et aussi les 16, 17 et 18 décembre à l'Olympia et on viendra t'applaudir. Mais oui, tu es merveilleuse. Ça vous parle, ce questionnement sur la
Bezos, oui, énormément.
Sur les fusées.
C'est un thème en soi. Ouais. Des vrais crétins, quoi.
Et sur le...
Non, ils sont fous.
c'est tellement lisible psychanalytiquement.
Ils nous convoquent à ce spectacle.
C'est pas subtil.
C'est vrai.
Le problème, c'est que Sylvain, on répond à la convocation.
Et sur le rapport des hommes à leur corps, sur leur...
La question est...
La virilité, la masculinité, le fait qu'on a besoin de... On n'a pas envie d'être au contact d'autres corps parce que sans quoi on est interpellé et considéré comme...
Ah bon ?
Comme des homosexuels, vous vivez comment votre masculinité ?
Moi, je pense que je sais qu'enfant, ma mère avait une terreur, c'est que je sois homosexuel.
C'est vrai.
Parce que à l'époque, on avait les cheveux longs. Voilà. J'avais un catogan, ça peut paraître bizarre. Et j'ai senti que ma maman était terrifiée. Voilà. Alors donc depuis, je sais pas. Non, j'aime pas trop les mecs, je veux dire. Pour être tout à fait franc, je les aime pas trop.
Le standard du mec, en tout cas.
Non, c'est comme un homme, c'est ultra chouette. Voilà, j'aime bien cette phrase définitive.
Ouais.
Deux, c'est quand même pas mal. Hein. À partir de trois, ça peut devenir assez con. Alors là, quand il y a un
quand
groupe,
ils sont en équipe.
Quand c'est une mêlée, alors là, c'est les corps constitués, tout ça, ça c'est horrible. Là, j'ai aucune confiance. Moi, j'ai une enfance de pensionnaire, et je peux vous dire que les garçons ensemble, c'est quelque chose.
Du coup, vous faites des films d'hommes solitaires, quoi.
Oui.
Pardon, excusez-moi.
Du coup, vous montrez les hommes solitaires. Vous faites plein de films avec plein d'hommes tout seuls.
Ah ben moi, mon premier film s'appelait Regarde les hommes tomber. C'est assez programmatique. Oui. Je regarde tomber. Et même Jeff Bezos, il tombe.
Ils finissent tous par tomber. En tout cas, dans ce film, dans les Olympiades, en salle demain, Jacques Audiard et Rhône à la musique. Et justement, Rhône, on s'est dit que tant qu'à vous faire venir pour la première fois dans la bande originale, autant juste vous célébrer, passer un disque et que ce soit l'un des vôtres. Je vous propose d'écouter tout de suite Waves of Devotion avec un featuring de Georgia.
Have you ever swam so far enough to breathe? Swim in the ocean, kicking my feet in waves of devotion. Based in reality.
Rhône sur France Inter et Rhône au micro de la bande originale, si c'est pas la classe internationale, ça. Ça vous fait quoi de vous entendre, Rhône, à la radio?
Ça fait plaisir ouais. d'être à la radio, de toute manière.
Vous avez l'habitude maintenant?
Oh, pas tant que ça, je passe pas beaucoup à la radio, en fait. La musique électronique, ça sert rarement à la radio, finalement. Il se trouve que ce morceau est très, on va dire, radio-friendly, puisque c'est une chanson, un format court et tout ça, mais la plupart de mes morceaux durent trop longtemps pour la radio, et puis il n'y a pas de parole, souvent.
Oui, d'accord.
Donc je suis pas un très bon client pour la radio, je crois.
Mais vous êtes un très bon client pour le cinéma. Vous signez la bande originale de ce film Les Olympiades. Jacques Audiard, depuis le début, j'ai l'impression de tourner autour du pot parce que je n'ai pas envie de raconter l'histoire de ce film. J'ai juste envie qu'on parle de cette atmosphère, de cette ambiance que vous réussissez à capter avec votre caméra. Qu'est-ce que vous auriez envie qu'on dise de ce film, justement?
Ah ça, alors, je ne sais pas du tout.
Mais qu'est-ce que vous en dites, vous, alors?
Ce que j'en dis, c'est pour autant que je sois un peu détaché, ce qui est... C'est un film qui a été pour moi très agréable à faire. Voilà. Et c'est un peu mystérieux parce que je suis, je vais le dire brutalement, je suis un peu peine à jouir. Et c'est comment le j'ai un peu la douleur dans le travail et ces choses-là. Et là, pas du tout. Donc c'est un peu une découverte. Je me sens mal à l'aise même avec tant de bonheur.
Vous me dites c'est louche.
Oui, parfois c'est pas faux. Parfois je me dis quand c'est trop facile, je me dis que c'est louche.
Vous avez répété pendant, je crois, trois journées entières, non même plus, dans un théâtre?
Non, on a beaucoup répété, mais ça pour des raisons
sanitaires.
Non, c'est devenu après. C'est comment, d'une certaine façon, le scénario de répétition proposé a rejoint les conditions, donc de tournage rapide. Non, c'est parce que entre Lucie, Noémie, il y avait des différences, pas de professionnalisme,
d'expérience.
Il y avait des différences. Il fallait mettre tout
le monde à niveau.
Toute cette petite population à niveau. Donc on a beaucoup répété. Et puis à la fin, on a filé le film au Théâtre du Rond-Point. On a fait en 2 heures, on a tout filé.
Et puis vous leur demandez une certaine intimité aussi, une certaine complicité,
parce que ce sont des amours naissants. C'est des choses difficiles à faire, ça. Mais moi, j'ai essayé de se débrouiller, ils m'ont proposé des choses. Ils sont imaginatifs.
On va se plonger dans la bande originale de vos vies, cette fois-ci. On va commencer dans les années 90. Jacques Audiard, vous écoutiez... C'est la version Woodstock à votre demande.
Oui, absolument, c'est la version définitive. C'est Silence de Family Stone. Il faut tout entendre. D'abord, il faut regarder le film Woodstock, qui est une chose. C'est un modèle esthétique à un moment donné, Woodstock. C'est d'abord celui qui. Le monteur, c'est Scorsese. Déjà, il y a une chose. C'est la première fois, moi, que je vois du multi-écran, du split screen. C'est pas la première fois, il l'a pas inventé. Mais tout à coup, sur la musique, c'était d'une cohérence extrême, quoi, de montrer toute la scène. Ça, c'était formidable. Alors, Sly and Family Stone, c'est tout à coup sur scène. D'abord, c'est un orchestre mix. C'est très, très rare de voir des femmes, des hommes jouer et chanter en même temps, et des noirs et des blancs chanter en même temps. Il fait ça, c'est un vrai fou. Il y a un niveau sonore considérable. C'est un bastringue. Moi, ça me fout encore des frissons.
C'est un peu comme dans les Olympiades, ce mélange-là.
Et c'est une beauté. La sœur de Sly, qui est trompettiste. Franchement, faut voir ça.
Sly and the Family Stone dans les milieux des années 90, Jacques Audiard.
C'est 69, c'est Woodstock.
Vous réalisez... Oui, mais vous écoutez ça...
Ah oui, bien sûr, absolument. Mais je l'écoute tout le temps.
Vous continuez de l'écouter. Vous réalisez votre premier film, Regarde les hommes tombés, que vous avez évoqué. Vous dites que c'est un premier essai qui vous a épuisé nerveusement.
Oui, c'était un premier film. D'abord, comment je suis un tardif, je suis pas un précoce. Je fais ça, je dois avoir 42 ans.
Vous avez été scénariste.
Oui,
avant.
J'étais scénariste avec plus ou moins de succès. C'est pas mal d'un succès. Et donc, ça vient un peu tard pour moi. Et c'est vrai que c'est un tournage difficile. Voilà.
Pourquoi vous passez à la réalisation? Quel est le déclic?
C'est idiot de dire ça, mais je me le demande. En fait, ce qui s'est passé, c'est que. C'est un petit peu comme les passages des Olympiades, je me racontais des salades en fait. Je pensais que c'était pas fait pour moi du tout, et c'est des gens qui m'ont un peu désigné, qui m'ont dit voilà, deux amis, Didier Hautepin et Alain Le Henry, qui m'ont dit bon, allez, vas-y, passe. Ouais, t'as lu quelque chose récemment? Oui, ben on l'adapte, ok. Voilà.
Et trois Césars et une sélection à Cannes pour le premier film.
Ah, oui, non, je suis un anti, moi je reconnais absolument, j'ai rien à...
Pourquoi?
Non, j'ai eu beaucoup de réussites.
C'est pour ça que je me dis que vous avez bien fait de vous l'autoriser.
Oui, mais c'est pourquoi ça m'a pris si tard.
Oui, parce que quoi, vous aviez envie que les scénarios que vous écriviez, à un moment, de les voir vous-même.
Parce que je pense que plus j'écrivais de scénarios, plus je me paupérisais, moi je gagnais de pognon, plus je vivais mal. Donc, non, mais c'est sans blague. C'est à l'époque, le sort du scénariste ou de la scénariste en France, ce n'est pas terrible, ça a changé.
À la même époque, Rhône, vous écoutiez. Ce qui est bien, c'est qu'avec Ron, tout de suite, on se retrouve dans un hangar, tard le soir, un week-end.
Puis t'es pas pollué par les paroles.
Et on n'a pas envie de rentrer. Et on n'a vraiment pas... Alors, vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ?
Aphex Twin. Ouais, Aphex Twin. Moi, je prends ça comme une claque à l'adolescence, en fait. C'est ma porte d'entrée dans la musique électronique, en fait. C'est des sonorités que je comprends pas à cette époque-là. Maintenant, ça paraît un peu ridicule de dire ça, mais vraiment, je me souviens que je me posais la question, mais c'est pas une batterie, c'est pas une guitare, c'est pas un piano. Pour moi, ça venait d'une autre planète, c'était un ovni, Aphex Twin. D'ailleurs, c'est un personnage très mystérieux, et ses pochettes de disques sont sublimes, on le voit jamais tout à fait, il est déformé.
Les clips sont très étonnants.
Les clips sont dingues, de Chris Cunningham. Enfin, moi, c'est un truc qui m'a fasciné complètement, et qui m'a donné envie de faire du son, hein, tout simplement, en fait.
Ouais. Mais vous avez commencé par le cinéma, vous êtes inscrit en fac de cinéma, et puis finalement... in fine vous signe et vous partez du cinéma pour aller vers de la musique, mais vous revenez avec Jacques Audiard. C'est pas votre première collaboration, je crois que c'est la deuxième ou troisième pour un long métrage, c'est la deuxième. Vous revenez au cinéma, vous ne savez ni lire ni écrire la musique, vous êtes un autodidacte total.
Peur,
Ah mais là je voulais vous dire, Jacques,
cette période analphabète,
s'il ne répondait pas aux mails qu'à part avec des smileys, c'est que en fait, c'est pas un truc de jeune, c'est qu'il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Vous êtes intéressé donc en effet très tôt au synthé, à la musique, ce qui allait devenir la musique électronique finalement. Et vous avez justement une approche, on l'a évoqué tout à l'heure, étonnante dans votre façon de composer de la musique, puisque vous n'avez pas ce savoir la musicale. En revanche, vous avez la vision d'un cinéaste.
Alors je sais pas, c'est surtout qu'effectivement, comme j'ai fait quelques années de fac de cinéma, où pour le coup j'étais une période où j'étais complètement paumé, je savais pas vraiment ce que je faisais là, mais en tout cas c'est la période où c'est la seule période de ma vie où je me suis intéressé à mes études. J'étais nul au lycée, tout ça. Donc ça me passionnait, je voyais plein de films et tout ça, mais honnêtement, je me voyais pas, j'étais un peu perdu parce que je me voyais pas du tout réalisateur ou je faisais du son, beaucoup de son, mais j'étais en fac de cinéma, c'était un peu bizarre. Et c'est vrai que par contre, j'ai l'impression d'y avoir trouvé des outils pour faire la musique. Et souvent, quand je fais de la musique, c'est vrai que j'utilise du jargon un peu de cinéma. Je cherche un climax dans mes morceaux, j'essaye de mettre du suspense parfois, des rebondissements et tout ça. Donc c'est marrant, je me sers de ces outils-là comme ça. Et effectivement, à un moment, je sais pas lire la musique, je sais pas l'écrire.
Toujours pas,
vous l'avez. Toujours pas, mais en fait, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai eu une période très complexée où je me disais, peut-être que je m'y mette quand même. Et puis en fait, j'ai l'impression d'apprendre tous les jours encore. Mais plutôt que d'apprendre le solfège aujourd'hui, je préfère apprendre à me servir d'une nouvelle machine. Ça évolue tellement vite, il y a tellement, j'apprends autrement. Et je me dis que je creuse plutôt ce truc de mec qui sait pas lire la musique, mais qui en fait quand même.
Et ben pour un mec qui sait pas lire la musique, puisqu'il compose, hein, vraiment. Encore un extrait de la bande originale des Olympiades, quand Émilie se met à danser. Les Olympiades, c'est en salle demain. Un film signé Jacques Audiard et la bande son, c'est Rhône. Et tout de suite, on accueille notre spécialiste, Déborah Schumann-Antonio. Bonjour Déborah,
bonjour.
Merci d'être à ce micro à nouveau. Vous êtes psychologue, on vous a demandé de venir, on vous a demandé de voir le film et de nous parler justement de ce sujet qui anime souvent nos soirées un peu nocturnes, l'amour, les relations amoureuses, quand on a 25, 30 ans, même un petit peu plus. Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui de s'aimer à ce point? En tout cas, dans le film, c'est cette sensation qu'on a.
J'ai trouvé que le film reflétait extrêmement bien ce que je vois tous les jours au cabinet. C'est-à-dire que...
C'est terrible, quel cabinet, pardon?
Elle est psychologue.
Ah, oui.
Elle a un cabinet, quoi.
J'ai des patients, le cabinet du Premier ministre tous les jours.
Voilà. Une ambiance.
Jacques, je reviens.
Revenez, Jacques.
Pas de mal. Non, c'est ce que je vois quotidiennement. C'est-à-dire qu'il y a une vraie perte de repères des 25, 30, voire 35, hein, même. avec vraiment, alors on a eu une génération, je pense qu'il faut remonter un peu avant, oui. où c'était très normé, donc on se fiançait, on se mariait, les choses étaient finalement assez claires. Puis on a une génération 60-70 où finalement il y a une vraie libération sexuelle et puis une vraie liberté de la femme qui arrive. Alors, on a quand même dit aux femmes à ce moment-là, vous allez pouvoir tout faire, vous marier, faire des enfants, être une professionnelle, etc. Donc tout d'un coup pouvait être possible. Et là on arrive quand même dans quelque chose où on sent que les repères sont perdus et que à la fois j'entends beaucoup de gens me dire je suis content d'avoir une famille et j'en ai besoin, je parle de famille, parents, etc. Je suis ancrée dedans et c'est important. Et parallèlement, je ne veux pas qu'on me mette dans une case ailleurs. Donc dire je suis en couple, typiquement ce qui se passe d'ailleurs dans le film, je ne veux pas.
Ouais,
parce qu'à partir du moment, on me colle une étiquette et je ne veux pas de cette étiquette-là.
C'est quoi ? C'est la peur de s'engager ? C'est la multitude du choix aussi ? C'est-à-dire qu'on a une forme de liberté qui nous permet d'envisager plus de partenaires et plus d'opportunités ?
Oui, j'entends beaucoup de gens me dire, avant vraiment de me mettre avec quelqu'un, et encore le mot couple, je vous dis, est mis un peu à l'écart, j'ai envie d'expérimenter, j'ai envie de rencontrer, mais qu'est-ce que je cherche en fait ? J'allais dire, il y a tellement de possibilités, qu'est-ce que je cherche fondamentalement ? J'entendais tout à l'heure, c'est vrai que tant qu'on ne se connaît pas fondamentalement aussi, c'est difficile d'aller vers les autres et de savoir ce qu'on veut.
Donc c'est plutôt une bonne nouvelle de chercher à expérimenter sexuellement ou amoureusement ?
Alors oui, sauf qu'aujourd'hui, j'allais dire, ça me frappe
définir
beaucoup.
Sa sexualité, parce qu'on n'est pas forcément sachant de ça, on se découvre par les expériences, les gens qu'on rencontre, on peut s'orienter aussi, ou même changer d'orientation par le biais de rencontres.
Tout à fait, mais ce qui est un peu particulier maintenant, j'allais dire, dans cette nouvelle sexualité qui est très, j'allais dire, qui est presque un peu crue par moments, et c'est vrai qu'on le voit aussi dans le film, c'est qu'il y a un moment donné où sexualité et sentiments sont complètement séparés, complètement dissociés, lâcher les hommes et chez les femmes, ce qui n'était pas forcément le cas avant chez les femmes. Aujourd'hui, c'est très très séparé. Et donc, j'entends beaucoup de gens me dire je suis dans l'intime avec quelqu'un parce que je couche avec. Mais en fait, l'intime n'est pas de coucher avec quelqu'un. Je m'excuse, évidemment, c'est une part d'intimité, mais se raconter, se donner émotionnellement, c'est ce qui donne aussi l'intime. Et aujourd'hui, l'intime passe beaucoup par, je vois des gens qui passent leur temps à envoyer des messages. Il n'y a pas de mots qui sont mis sur les émotions et les sentiments. D'ailleurs, dans le film, on le voit beaucoup. Par contre, il y a des écrans, il y a des smileys, il y a d'autres manières de communiquer, mais qui ne sont pas toujours très justes, parce qu'on ne se comprend pas, et ça crée des quiproquos dans la communication qu'on a en couple.
Parce que la technologie, elle est au cœur aussi de ce changement, finalement.
Complètement au cœur.
Oui.
Complètement.
Par les applications de rencontres, on le voit, on match,
On a l'impression que ça simplifie les choses.
Oui.
Dans un sens, ça simplifie
c'est vrai,
les choses.
Parce
c'est
que
vrai.
Rencontrer, c'est difficile.
Oui, mais qu'est-ce qui nous dit que l'individu qui est en face est sincère et réel. L'émotion qu'on a quand on rencontre quelqu'un physiquement, il y a bien des choses que l'on perçoit, que l'on sent au fond.
Mais ça, c'est
nous.
Pas contemporain, la sincérité de l'autre, on ne pouvait pas savoir non plus.
Non, c'est pas contemporain, mais le fait d'avoir un écran entre nous, finalement, met encore plus à distance.
Oui.
Parce qu'on peut bien raconter ce qu'on veut, et il manque quelque chose. Je vois bien dans les rencontres, moi j'ai beaucoup de gens qui me disent, je suis sur des sites, je leur dis, rencontrer très vite la personne physiquement, parce qu'il va se passer une alchimie ou pas, et qui est absolument impossible en fait à prévoir derrière un écran. Donc on a remplacé les mots par d'autres éléments qui parfois donnent des communications très complexes.
Vous avez la sensation, Jacques Audiard, de faire un film si générationnel finalement ?
Non, c'est bizarre. Non, pas vraiment. En fait, moi je me suis posé la question très simplement, comme je vous le disais tout à l'heure, avec l'exemple de alors qui est de ma génération, de Manu Chémaud. Aujourd'hui, j'ai bien senti qu'il y avait l'inverse, c'était là et que c'était vraiment un thème de comédie. Voilà.
Il y a aussi il y a l'autre tendance, c'est que dans une société qu'on a l'impression de dire assez hypersexualisée, il y a aussi ceux qui ne veulent pas être dans la consommation sexuelle. Il y a
tout
les no-sexe aussi.
Il y a quelques jours, j'ai lu un article sur des jeunes qui disaient à 70%, qu'ils étaient capables d'imaginer faire l'amour avec un robot. Bon, j'ai trouvé ça assez surprenant de se dire que justement la confrontation à l'autre, je parle de confrontation physique, la rencontre physique, encore une fois, fait peur. Je crois qu'il y a quand même une idée que aujourd'hui on a un peu peur de l'autre, d'aller à la rencontre de l'autre. On entend des gens qui nous disent.
La Covid, ça va pas arranger le truc.
Alors ce que j'allais vous dire, parce que ce qui est très étonnant, c'est que à la fois il y a eu beaucoup de souffrance d'être loin des gens, et finalement il y a beaucoup de gens que ça a conforté dans l'idée que la distance n'était pas désagréable, qu'on pouvait créer d'autres codes amoureux.
Que l'autre était dangereux.
Ouais. L'autre est dangereux. L'autre est dangereux parce qu'il nous remet en cause. Et puis, ça peut faire mal. En fait, l'amour, c'est ça. C'est qu'au bout d'un moment, si ça ne fonctionne pas, ça fait mal. Et comment je gère cette souffrance ? on est quand même sur une génération, je ne vais pas faire de généralité, mais où on sent qu'il y a un côté immédiateté, il y a un côté on veut tout maintenant, et puis surtout, excusez-moi du terme, mais du kiff, quoi, du plaisir. Donc tout ce qui n'est pas de ce domaine-là, je le mets à l'écart. Donc je le mets à l'écart comment ? On voit beaucoup de modes de, aujourd'hui de rencontres assez surprenants, et puis des gens qui vous disent, j'ai été ghosté. Oui. Donc d'un coup, on vous a supprimé de tous les réseaux sociaux, on ne vous parle plus, vous n'existez plus en fait. Mais on se met à distance immédiatement. Mais il n'y a pas d'explication. Jamais.
C'est le personnage d'Émilie dans les Olympiades qui est assez révélateur de ce point de vue-là, parce qu'elle est dans une vraie volonté de jouir, et elle le revendique pleinement. Elle cale des rendez-vous comme ça, même au milieu d'un service, dans son boulot.
Elle n'a pas réalisé qu'elle a un petit cœur qui bat.
Et voilà, et qu'elle peut se faire apprivoiser et attraper finalement, sentimentalement, par quelqu'un d'autre. Mais, et en même temps, elle sacrifie même sa carrière, puisqu'on vous le dit.
Ça, à mon avis, c'est des choses qu'il faut. C'est, parce que j'en ai connu comme ça des bacs plus 6, issus d'une bourgeoisie très, et qui voulaient juste ennuyer leurs parents, quoi. Qui étaient dans une espèce de rêve. Alors, et ça, je pense que dans le. C'est une chose que je suppose, mais dans le milieu chinois attend beaucoup des enfants.
Oui.
La pression est assez considérable.
Oui, il y a une exigence.
Une exigence dans tous les domaines. Et voilà, quand j'ai fait du personnage d'Émilie, un personnage qui est révolté. Alors, il ne faut pas qu'elle perde trop de temps avec ça, parce que ça ne mène à rien.
Il est aussi évoqué la pornographie dans le film. On met en garde les jeunes gens face à la consommation de pornographie. Et finalement, la lumière vient du personnage incarné par Jenny Bess. Finalement, c'est le paradoxe du film aussi.
Oui, c'est le paradoxe, mais c'est vrai que j'entendais ça tout à l'heure. C'est peut-être le seul personnage qui est tout à fait en lien avec elle-même. Mm-hmm. Elle sait très exactement ce qu'elle fait, pourquoi elle le fait, elle le vit très bien. J'allais dire, la pornographie est rentrée aujourd'hui de manière assez démocratique finalement dans nos vies. On voit beaucoup d'adolescents qui apprennent la sexualité au travers d'ailleurs des sites comme YouPorn par exemple. Alors, et qui se font une fausse idée de la réalité, parce que finalement c'est quelque chose de très mécanique dans un film pornographique. On parle, encore une fois, pas d'émotion, pas de sentiment. Donc il y a des choses très mécaniques. Et on entend beaucoup d'adolescents dire « il faut que je fasse telle ou telle chose, c'est logique ». Mais à aucun moment on se dit « mais qu'est-ce qui pour moi est essentiel ou important ?» Donc ça a pris une part qui est un peu compliquée d'expliquer à des adolescents ou à des jeunes adolescents qu'à un moment donné c'est pas ça en fait, c'est la rencontre avec l'autre. Finalement tout est autorisé à partir du moment où on est à l'aise avec l'autre, on se sent bien et qu'une sexualité ça se construit à deux.
Ça sera le mot de la fin.
Il y a un documentaire formidable qui s'appelle « Préliminaire, Préli », vous l'avez vu ?
Non.
Sur justement les amours adolescentes. Et c'est très très beau, très instructif. Justement, ça c'est le thème que vous abordez.
Et ben voilà, de quoi continuer à nourrir la discussion. Merci beaucoup Déborah Schumann-Antonio d'être venue à ce micro. Daniel Morin, est-ce qu'on n'aurait pas un héros du jour
aujourd'hui ? Mais absolument, il y a un héros du jour. Tous les jours, il y a un héros. Héros du jour, les amis. Aujourd'hui, mon héros aurait pu être un chien d'aveugle. Le chien d'aveugle, c'est le gentil toutou que tout le monde aime parce que il est doux, il est patient, il est en phase avec son maître. Mais non, je vous le dis tout de suite, je n'ai aucune estime pour ce genre d'individu. Pourquoi ? Parce que je suis un salaud ? Sûrement, ça a dû jouer, mais pas que. Non, pour moi, le chien guide d'aveugle ne fait que son travail, il n'y a pas de raison qu'on l'encense pour autant. Est-ce qu'on applaudit le pompiste qui vous a fait le plein d'essence ? Non, on dit merci, bonne journée, on s'en va, on n'en fait pas le héros du jour. Du coup, le chien d'aveugle n'est pas mon héros en ce mardi 2 novembre. Mon héros est quelqu'un de vraiment exceptionnel. Un homme comme on n'en fait plus. Un homme bon, un homme à l'écoute, un héros quoi. Cet homme dont je ne connais pas le nom, vous voyez la modestie du personnage, il va jusqu'à garder le secret sur son état civil. Cet homme est marié. Et comme c'est souvent le cas quand on est gentil, il est en couple avec ce qu'on peut appeler scientifiquement une ingrate. L'histoire se passe en Bosnie. Le couple est plus ou moins heureux. Il habite dans une petite maison en hauteur que l'homme en question, mon héros, a bâti de ses mains. Il a construit le foyer. Preuve d'amour ultime s'il en est. Est-ce que madame est contente ? Non, elle n'a pas la vue. Elle se lasse de la vue, du coup il fait quoi notre héros ? Divorce-t-il comme l'aurait fait n'importe quel homme censé être en réaction avec une telle ingratitude ? Non, il ne divorce pas. Il prend sa truelle. Il achète des roulements à billes, des vérins, des rouages géants et de ses mains amoureuses, il transforme sa bâtisse, il en fait une maison qui peut pivoter sur 360 degrés. Oui, oui mes amis, une maison qui pivote pour que sa femme ne se lasse pas de la vue, pour que sa vue soit un éternel carrousel. Quel homme merveilleux. Du coup, j'en appelle à la femme de mon héros. Écoute-moi, femme, écoute-moi bien. Démarrer comme le tien, on n'en fabrique plus. T'as eu le dernier, mégère. Oui, tu m'entends, tu as eu le dernier. Au lieu de te répudier, comme l'aurait fait n'importe quel homme sensé, après avoir entendu sa femme dire de la maison qu'il a construite de ses mains et avec son cœur,
ah bah fais chier, j'aime pas la vue.
Non, au lieu de te renvoyer chez ta mère, il a fait en sorte que tu ne te lasses jamais de cette vue qui t'est si chère. Il t'a fait une maison qui pivote à 360 degrés. Alors maintenant, finis les caprices, finis l'égoïsme. Ton homme doit maintenant être aussi pour toi ton héros. Très bientôt, les amis, je vous parlerai d'une héroïne, une femme remarquable que j'ai connue dans une maison immobile, mais qui, elle, avait l'incroyable pouvoir de pivoter à 360 degrés.
Merci. Tanguy Pastureau, tu es avec nous. De quoi allons-nous parler dans un instant ?
Eh bien, je vais vous parler des cernes, ces trucs qu'on a quand on est jeune et qu'on est fatigué, et quand on est vieux et qu'on n'a rien fait de spécial. Les cernes, c'est la nouvelle tendance, nous dit la presse.
Et on continue de parler avec Jacques Audiard, héroïne des Olympiades en deuxième partie jusqu'à 12h30. Daniel Morin et nos invités sont restés. C'est Jacques Audiard et Rhône. Les Olympiades en salle demain, un film merveilleux, un film générationnel, comme vient de nous l'expliquer finalement notre spécialiste Déborah Schumann-Antonio, qui pose ces questions essentielles finalement. Le cinéma, c'est peut-être aussi ça, Jacques Audiard, s'interroger sur ce qui nous concerne à tous au quotidien. L'amour, non,
c'est trouver les formes de ça, oui, ouais. Sans doute.
Comment la forme vous est venue, justement? Vous dites que, vous, c'est pas tant les sujets des films qui vous intéressent dans un premier temps, c'est la forme que vous avez envie de construire après Frère-Sister.
C'est vrai que on dit toujours, moi ça me surprend, on dit, ouais, je cherche un sujet, tu cherches un sujet, et nous cherchons, mais non, ça n'a pas beaucoup de sens. J'ai l'impression qu'on est dans une espèce de fabrication mentale, de là où, qu'est-ce qu'on a fait avant, et dans ce travail-là va tomber quelque chose qui va cristalliser et faire un projet. Voilà.
Et donc vous avez vu quoi? Le noir et blanc apparaître,
oui,
comme
une
évidence.
Le noir et blanc, la diversité, comment un espace réduit, un espace que je pouvais visiter, un 13e arrondissement, voilà, c'est des choses comme ça.
Et comment vous avez...
Alors ça peut paraître un peu abstrait quand c'est dit, mais c'est ça. Et dessous, il y a les nouvelles de Tominé.
Voilà. Ouais. Et comment vous avez réuni ce casting?
Alors d'abord, je travaille avec quelqu'un qui a beaucoup de talent, qui travaille aussi avec Céline, c'est Christelle Barras. Alors après, moi,
Céline
je choisis.
Céline Sciamma, donc qui a travaillé au scénario avec vous.
Et après, moi, je choisis là-dedans, mais c'est elle qui, c'est le talent lui en revient.
Et Rhône aussi, qui vient compléter cette belle équipe avec vos compositions sur mesure pour le film de Jacques Audiard, en attendant la validation de Jacques Audiard. Donc avec ce système de nappe comme ça, qui permet un peu d'emballer le personnage, c'est ça?
Ça c'est quand
Ça c'est la scène porno.
Oui,
ah c'est ça.
Oui.
Je me souviens pas.
Ah oui, d'accord. Ça se superpose avec
C'est joli ça.
Est-ce que vous avez senti que Jacques Audiard était désireux d'instruments aussi classiques dans vos compositions? Parce que vous n'avez pas servi que de la musique électronique pure, pour ce que, au sens large, c'est-à-dire que de l'ordinateur ou du synthé, c'est...
Oui, non, j'ai rapidement senti qu'il fallait qu'il y ait quelque chose d'organique même si j'utilisais des machines, des synthétiseurs, tout ça, il fallait que ça sonne de manière organique, je crois, pas froide et mécanique, donc, oui, je suis allé chercher ce type de sonorité-là. J'ai fait jouer aussi... c'est vraiment à 99% de la musique électronique, mais j'ai mis un petit peu de violoncelle, des choses comme ça, ajouté un petit peu de d'acoustique et de matière organique.
Et justement, l'organique, c'est au cœur aussi du film, parce que ce sont ces corps-là que vous donnez à voir, des corps différents, des corps qui se rencontrent, en fait. Mm-hmm. C'est aussi cette sensualité-là.
Dites-le qui baise.
Ah bah oui, mais ils font pas que baiser d'ailleurs. Ils font pas que baiser parce que
ils sont dans l'attente de ça.
Ils sont dans la caresse. Ils sont.
Oui, bien
dans...
sûr, bien sûr. Ils
la,
sont dans
la
le...
scène d'ouverture, c'est pas une scène de baise finalement. C'est une.
Oui,
c'est le personnage qui chante admirablement bien, et on a vraiment l'impression d'être à Taïwan, je ne sais pas où. Et puis
ils sont quand même nus comme des vers.
Ils sont nus, mais ils ne font pas l'amour.
On n'est pas loin.
Ils viennent de le faire.
Oui, je pense.
Ou ils vont le refaire.
je crois qu'ils sont entre.
Ils sont entre l'entre-deux. Ouais. Ils ont besoin de ce club, un petit bilan. En même temps, je comprends parce qu'ils ont une activité assez frénétique.
Ils s'aiment beaucoup. C'est les débuts. On sait bien.
Ils s'aiment beaucoup. Ils aiment beaucoup leurs corps respectifs. On ne sait pas encore.
Je crois que d'une manière générale, d'abord, ils sont narcissiques. Ils s'aiment déjà eux-mêmes. Donc voilà, c'est pas de la preuve, c'est qu'ils peuvent se balader nus. Ils sont pas encombrés d'eux-mêmes. Mais qu'est-ce que c'est beau cette musique.
Ah, merci.
C'est un peu frustrant parce que je suis toujours obligée d'interrompre ces morceaux alors qu'il y a des ça gagne en intensité.
Je peux poser de questions.
Mais bien sûr, Jacques.
Là, il y a du violoncelle.
Non, là, alors pour le coup, c'est des synthés. Ah, qui... Mais je vais essayer de me rapprocher de sonorité de violoncelle, ouais.
D'accord.
Vous continuez d'échanger en fait autour de ce film.
C'est parce que c'est mystérieux comment la musique fait. Comment moi, j'écoute pas mal de musique classique. Donc je sais, quand les hautbois arrivent, je les reconnais. Oui. Quand le violoncelle arrive, je le distingue du hautbois. Là, c'est vrai que je sais que c'est quelque chose qui m'attire beaucoup d'abord. Et que je trouve très mystérieux la fabrication laborantine de cette musique me passionne.
Et c'est un projet, Jacques Audiard, qui vous a pris moins de temps que les autres.
Oui.
Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Mais puisque...
tout est assez heureux pour moi, tout est assez vertueux. C'était... Et puis, c'est très sincèrement, pour l'avoir éprouvé, on se lève pas de la même façon quand on fait une comédie ou un film dramatique.
Oui. Les Olympiades en salle, demain au cinéma, on vous invite chaleureusement à aller le voir avec Lucie Zhang, parce qu'il faut parler de ce casting qui est fabuleux. Makita Samba, Noémie Merlant, Jenny Bess, que vous connaissiez aussi d'une autre vie, Rhône, puisque vous travaillez ensemble, je crois, au moment où le projet s'est monté.
Ouais, on a fait de la musique ensemble, mais c'est... Ouais. Je la connais déjà.
Camille, Léon Fussien, Océane Kerati, Anaïd Rosam, Paul White, Geneviève Dohang, pour vous donner un aperçu de ce casting, de ce film de Jacques Audiard. Mais tout de suite, on accueille Tanguy Pasturon.
Oui.
Ah oui, Tanguy.
Hier, dans la rue, j'ai croisé un homme qui portait un sweatshirt avec écrit dessus « Je ne suis pas vieux, je suis vintage » et j'ai eu envie de le frapper. Alors, pas fort, hein, je suis non violent, mais en moi, je me disais « Je vais lui mettre une pichenette à cet enfoiré. » Parce que je déteste les fringues à message. Ces filles trentenaires avec des t-shirts « Super maman » ou « Je ne râle pas, je m'exprime ». J'ai même vu un jour une fille avec un t-shirt 50% délicieuse, 50% attachante, 100% moi. J'ai eu envie de lui crever ses pneus, alors qu'elle avait même pas de voiture, c'est vous dire. Je pourrais jamais parler à une personne qui porte ce genre de t-shirt. Même si Scarlett Johansson en avait un, que j'étais coincé avec elle dans l'ascenseur du Plaza Athénée, puisque j'aurais perçu mes droits d'auteur, qui me disait « Tanguy, oh baby, let's make love », je dirais « Bah non, radas, ton t-shirt m'a coupé toute envie. Même si t'en portais un représentant Michel Barnier en slip à poche sur un varan mort, ça aurait été plus sexy que ça. » Puis j'ai repensé à cet homme au sweatshirt « Je ne suis pas vieux, je suis vintage » et j'ai songé au temps qui passe, si vite. Hier encore, j'étais un bébé incapable de contrôler son urine. Demain, je serai un vieux monsieur incapable de contrôler son urine. Entre les deux, j'ai une fenêtre de 75 ans durant laquelle j'arrive à peu près à faire pipi, donc dans la cuvette. C'est terrible de vieillir. On a moins de cheveux, plus de poils, on dit des trucs comme chouette ce soir dans Des Racines et des Ailes. Carole Gessler nous emmène dans le midi toulousain, du Quercy jusqu'au contrefort pyrénéen. Et surtout, quand on vieillit, on porte sur sa face le type de vie qu'on a. Parce qu'à ses spiges, la nuit blanche passée à inhaler du protoxyde d'azote. Le lendemain, à 9h, on pointe tout frais à l'entrée de son BTS. Mais moi qui en ai 30 de plus, une soirée sushi où j'ai bouffé trop de salade de chou blanc, à cause des reflux gastriques, je m'endors à minuit 40. Si c'est un 16 mars, je récupère pas ma tête normale avant le 28 avril. Et la salade de chou blanc, ça se refuse pas, parce qu'elle est comprise dans le menu sushi. Ah bah oui. Donc c'est un cadeau de la part du Japon. Comme Jacques Chirac adorait ce pays, si ça se trouve, les Japonais en retour ont décidé, après concertation, de nous faire la salade de chou blanc gratuite pour toujours. Là-bas, les producteurs de chou blanc, c'est l'équivalent du Père Noël. Ils doivent voir des lutins qui chantent « Le chou blanc, c'est merveilleux, on va vous fournir même au sushi shop des vreux hein, !» Ensuite, ils se baignent en poussant des petits cris dans une soupe miso géante. Enfin... Mais revenons au vieillissement. Moi, j'ai des amis âgés qui ressemblent de plus en plus à une salade de chou blanc. Les cernes en plus. Les cernes, c'est un double marqueur, celui de ton âge et du type de vie que tu t'infliges. Le Dalai Lama, vous pouvez regarder, il n'a pas de cernes. H24, il dort contre un yak qui règle le matin sur 9h. À 9h, le yak lui donne un petit coup de corne dans le cul. Il se réveille donc dans le plaisir et vivote tranquillou jusqu'au soir. Mais nous qui avons des vies intenses, c'est chronique ce succès. Des cernes, on en a. Ouais. Mais moi, parfois, j'ai tellement de valises sous les yeux que sur EasyJet, ils me font passer en excédent de bagages. Je voyage en soute avec les bergers allemands. Mais avoir des cernes, en fait, c'est top. Je suis tombé sur un article de West France, le journal que seuls les cons cherchent à Colmar. Article titré de TikTok au défilé de mode, les cernes sous les yeux sont la nouvelle tendance. Et je me suis dit, ah yes Tanguy, ça y est, tu vas enfin être hype. Hein, j'ai appelé le magazine Technica pour leur dire, cherchez pas pour votre prochaine une en couverture, c'est moi, avec DJ Snake et Marie Papillon, si vous voulez des gens moins à la mode. Hein. Oui, les cernes sont tendance. Au Met Gala à New York le mois dernier, Ella Emhoff, mannequin et belle-fille de la vice-présidente Kamala Harris, la seule chef d'État à porter le nom d'une marque de pain de mie. Hein, bientôt, on aura un Jean-Louis Pitch à la tête de la Bulgarie. Bon. La petite, donc, a accentué ses cernes avec du maquillage. Mieux, ensuite, elle a collé dessus des cristaux. Elle ressemblait à une princesse Disney qui viendrait d'avoir un gosse infoutu de faire ses nuits. Et elle n'est pas seule. Une TikTokeuse de 19 ans, Sarah Carstens, 3 millions d'abonnés. Elle est plus connue sur TikTok que Jean Castex dans le monde des conférences intitulées « Aborder l'andropause de manière sereine ». Sarah, elle aussi, dans l'une de ses vidéos, s'est ajouté des cernes avec un crayon pour lancer ce qu'elle appelle le beauty positive. En gros, tout le monde est beau. Vous avez un furoncle sur le nez, plus de dents, et ben vous ne le savez pas, mais vous valez Pierre Ninet, hein, qui d'ailleurs serait plus joli avec une seule oreille et des poux. Résultat, comme Sarah Carsten est influenceuse, bah les influencés se sont mis à l'imiter. Il n'y a plus une vidéo sur le net sans jeune à l'air défoncé de fatigue. Et nous, les vieux, grâce à ces petits kits d'amour, sans rien avoir à faire, on redevient tendance. Demain, Daniel Morin et moi, pour peu qu'on soit claqués, on peut devenir les rois de TikTok, ça va être énorme. D'ici 3 mois à la FNAC, pour la signature de notre bouquin intitulé « En train de crever », il y aura 3000 jeunes en folie. Si en plus la peau d'orange et la route du lion deviennent tendance, mais ça va être encore plus simple de faire la une de Vogue. Moi j'ai jeté toutes mes crèmes, je mange uniquement des Mars, et je n'ouvre plus la porte si je veux changer de pièce, parce que je sens que le cocard va devenir tendance, ainsi que le fait d'avoir seulement 9 doigts. Donc quand je joue au ping-pong, je le fais systématiquement à côté d'une meuleuse. Voilà, fini Julia Roberts, en pleine cinquantaine conquérante. Ce qu'on veut, c'est l'avoir livide, en train de gerber quand elle a chopé la gastro. Là on peut se projeter, ras-le-bol des injonctions à être beau, vive les cernes, les rides, les gens qui puent et les glavios. Enfin on a tous notre chance d'être beau, c'est-à-dire réel.
Bravo Tanguy. Soyons réels.
Et Tanguy dans le Val-d'Oise à Taverny le 19 novembre au théâtre Madeleine Renaud avec tous les choux blancs.
Et ça c'est du réel.
Ça c'est du réel. Et le réel c'est les Olympiades, Paris 13e, quartier des Olympiades, où vous mettez en scène votre film Jacques Audiard, un film en noir et blanc. Vous utilisez aussi la séparation d'écran, le screen split aussi.
Split screen,
voilà, bah, dans l'autre sens. qui permet aussi d'aller, de faire avancer la narration différemment. Qu'est-ce que vous cherchiez comme effet
Oui, c'est parce que c'est toujours intéressant de montrer les deux interlocuteurs à distance, comme oui. Ça, de les rapprocher. Et puis c'est presque un effet d'époque. Voilà, tout à l'heure, je vous parlais de Woodstock. Et Woodstock, c'est des split screens qui n'en finissent pas. Et j'ai toujours beaucoup aimé ça. Voilà, c'est un truc un peu nostalgique.
Il y a aussi une petite dimension nouvelle vague aussi dans ce film, au-delà du noir et blanc. Ouais, dans le noir et blanc, et puis aussi dans la destinée de ces, ouais, de
oui,
ces alors, êtres-là.
Ça plutôt, oui, effectivement, dans la façon de traiter les personnages. Ouais. Quand je vous disais la référence à Romère, mais il pourrait y avoir d'autres références. Noémie Merlant me faisait penser un peu aux héroïnes truffaldiennes, hein, comme Ardan, ce genre de...
De référence.
Ou même, je pensais quand on parlait de jeu, des indications, j'ai parlé de Diane Keaton beaucoup. Et que là, ce truc de ces femmes merveilleuses de beauté, tout ça, qui d'intelligence, et qui joue un petit peu les oies blanches, oui. Là, qui se prennent les pieds dans le tapis.
Et on a Rhône à la musique, et ça augmente considérablement l'effet produit par ce film. Jacques demande à chaque fois de repérer le moment du film, c'est ça?
Non, c'est vrai que parfois j'ai des trous.
Ces musiques, Rhône, au-delà d'être présentes dans cette bande originale de ce film, elles ont vocation aussi à vivre par elles-mêmes en dehors du film?
Ouais, ça c'est drôle parce que ça va donner un album. On va sortir la musique, la bande originale, ouais. deux jours après la sortie du film. Et pour moi, c'est un album très particulier du coup, parce que évidemment, je l'aurais pas fait tout seul. Et là,
l'album sort vendredi.
Oui, c'est ça. Et oui, c'est ce qui m'intéresse quand je fais de la musique de film, c'est que ce que je réalise, c'est que on peut penser qu'on a moins de liberté parce qu'on est au service d'un réalisateur, d'une œuvre collective, et finalement moi j'y trouve une nouvelle forme de liberté. J'ai l'impression de révéler des choses en moi. Enfin là, je suis hyper content de cette musique que j'aurais pas fait tout seul avec une liberté totale. Et c'est ça qui est étonnant.
Et vous allez la jouer sur scène?
Ah, ça, c'est une bonne question. Bah, je vais y penser, ouais, pourquoi pas. Ouais, j'ai pas réfléchi encore, mais je pense que certains morceaux
pourraient trouver sa place sur scène.
Ouais, peut-être.
Dans les soirées.
Et quand on a bossé avec Jacques Audiard, ensuite, on va devenir très, très précis sur les choix des réalisateurs avec lesquels collaborer.
Très exigeant, très sélectif. C'est un peu dingue parce que c'est toujours un peu gênant pour Jacques, mais c'est vraiment l'un des réalisateurs avec qui j'aurais rêvé de travailler. Donc moi, ça va presque. C'est fou, c'est vrai que c'est la deuxième musique de film que je fais et c'est vraiment l'un des réalisateurs avec qui je rêvais de travailler. Donc j'y pensais même pas, j'y croyais même pas. Donc c'est un peu fou que ça me. Mais ça me confirme aussi que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup faire la musique de cinéma. C'est un truc que. Ce que je dis souvent, c'est que quand je suis tout seul, c'est un travail très, très intime, puisque je suis tout seul devant l'écran, devant le film. Mais j'y retrouve des sensations que je peux avoir en concert devant une foule, quand il peut se passer des choses comme ça, quand j'ai l'impression que la musique fusionne avec l'image, ou en tout cas crée quelque chose avec l'image.
Et vous ne voulez pas de cette arnaque de vous avoir payé 25 minutes et d'en avoir fait 50 effectifs?
Vous êtes allés à Cannes tous les deux. Il n'y a pas de récompense à Cannes pour les musiques de films?
Alors j'en ai eu une. C'est un truc officiel, je crois.
Voilà. Pas officiel.
D'ailleurs, j'ai toujours pas récupéré. Je sais pas si. Mais c'est apparemment j'ai un prix. Ouais. Effectivement, c'est en dehors. C'est vrai qu'il y a pas de récompense pour la musique ni même pour le son.
Et vous, comment vous imaginez votre prochain film, Jacques Audiard, sans Rhône ou avec Rhône peut-être?
Ben non, sans rôle.
C'est une comédie musicale, sans rôle.
Une comédie musicale, vous allez pouvoir nous en parler un petit peu peut-être.
Pour être gentil.
D'accord, et ben ça sera juste après l'interroculture. Quel est le nouveau projet de Kanye West?
Changer de nom?
Non.
Devenir président?
Non plus.
Devenir Dieu?
Ça sans doute. C'est pas un album?
C'est pas un truc physique?
C'est sur une autre planète que la nôtre.
Non, c'est sur notre planète.
La peinture.
Ce sera en Californie.
Un musée?
Non.
Un centre de résidence ou un...
Une messe.
Non plus.
Un EHPAD.
Des fringues.
C'est pas la mode non plus, ça n'a rien à voir avec la musique ou la mode. Il veut préparer une nouvelle génération de leaders.
Donc, une école?
Une école, mon absolument.
Dieu, école de leaders?
Il va ouvrir sa Danda Academy.
Ça
va pas mieux, sans doute. Ça sera en Californie, ça sera cofinancé par Adidas et il souhaite recruter des joueurs de basket. Des joueurs de basket qui sont très très prisés par les grandes universités américaines et constituer un peu la team Kanye West.
Bah, est-ce qu'on peut entrer dans cette école avec son compte formation professionnelle?
Alors, toi, si tu fais une VAE, peut-être que tu pourras.
Je vais me renseigner alors.
Est-ce qu'il y a un projet que vous aimeriez mener grâce à votre notoriété?
Une BTS ou...
Pardon,
un IUT peut-être?
Oui, voilà, par exemple.
Non, mais votre notoriété, elle vous permet de faire quoi ou vous donne envie de faire quoi? Je sais que vous êtes très, très engagé dans 50-50 notamment.
Pas très, je suis 50-50, mais vous pas êtes très 50-50. Engagé. J'ai plus le temps de.
Oui, mais en tout cas, vous donnez votre voix à chaque fois et vous participez à en faire parler.
Si je peux, oui.
Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres sujets comme ça qui vous tiennent à cœur? 50-50, c'est pour cette parité au sein du cinéma. Notion de parité, justement, est-ce que ça avance dans le cinéma?
Ah oui, ça avançait. Entre le moment où moi je commence à faire du cinéma, donc comme réalisateur en 92-93, aujourd'hui, oui, ça a avancé.
C'est pas tant que les
réalisatrices soient reconnues. C'est les équipes techniques. Moi, c'est ce que j'ai vu changer. Et ça a énormément changé.
Et vous y êtes attentif dans vos films aussi, j'imagine.
Oui, mais comment j'ai pas à l'être. Tout à coup, on a un truc un peu militant de Conte, de Trébuchet. Non, c'est comme ça. Voilà, c'est tout.
Comment ça, c'est comme ça? Parce que
je ne sais pas comment vous dire, mais mes équipes, elles sont comme ça.
Les liens que vous avez tissés, c'est souvent aussi avec des femmes, et donc c'est ça, une diversité.
Ça ne me viendrait plus aujourd'hui, d'abord, je crois que je supporterais assez mal de n'avoir que des hommes autour de la caméra. Ouais. Mais comment les cordes? Alors, je ne sais pas, moi, je parle de ce que je vois dans mon équipe. Elle n'est pas à moi, d'abord. Ce que je vois. Après, je ne sais pas comment c'est chez les autres. Je sais pas.
Et vous, au sein de la musique, Rhône, alors, vous avez une activité assez solitaire, vous l'avez dit. Oui. Mais pourtant, il y a quand même des gens qui vous entourent. Ça aussi, c'est important?
Bien sûr.
Que les femmes soient là?
Oui, moi, d'ailleurs, c'est un peu pareil. Je suis entouré de femmes. Le label, in fine, il y a beaucoup d'artistes filles. Léonie Pernet, Tina Abdelwed. Il y a beaucoup d'artistes filles. Et puis dans les équipes aussi. Et voilà. Oui, c'est naturel, en fait, aussi. Ouais.
C'est pas une question qui se pose pour vous, en tout cas, voilà, que ça soit, c'est normal, ça devrait être normal.
Bah, en tout cas, il se passe, en tout cas, dans la musique électronique, par exemple, il se passe vraiment, il y a plein de filles qui émergent là. Alors peut-être c'est vrai que c'est quelque chose quand même d'un peu nouveau. Moi, c'est vrai que quand je parlais d'Aphex Twin tout à l'heure, c'était une époque où, quand j'y pense, c'était que des mecs les producteurs. Et là, depuis quelques années, je pense à Kathleen Aurelia Smith, une artiste qui joue de modulaire comme personne, qui me fascine. Il y a plein d'artistes qui... Et c'est vrai que c'est assez nouveau quand même. Mmh. Et donc ça, c'est plutôt cool.
On vous retrouve sur scène, Rhône, ce vendredi à Besançon, à Grenoble, ensuite à Strasbourg à la Laiterie le 7 novembre, à Paris au 104 pour les 15 ans du label Infiné le 13 novembre, à Marseille, retour à Marseille, ouais. Vous avez eu de très très belles collaborations le 19 novembre, à Rouen le 15 décembre au 106. Il y aura beaucoup d'autres dates en 2022. Il y a la sortie ce vendredi de la bande originale du film Les Olympiades. Et nous, Jacques Audiard, le prochain film, cette comédie musicale. J'ai cru lire des petites choses, mais je ne sais pas si c'est vrai. Dites-moi. Ben non, dites-moi vous, j'ai pas envie de dire de bêtises au micro.
Non, mais je rectifierai.
Je crois que c'est une comédie musicale. Alors, j'ai lu ça dans une interview.
Il y avait de la musique.
Non. C'est un truc un peu fou. Voilà, je vais pas retrouver.
C'est en espagnol, en mexicain. Je tournerai ça probablement à Mexico.
Et c'est dans quel cadre, dans quel milieu, dans quel...
Je
on peut pas dire, trop, on dit pas trop. Mais une comédie musicale, c'était un rêve de gosse aussi de
se lancer. Non, pas du tout. Plus je suis pas tellement porté vers la comédie musicale, j'aime pas trop ça.
Alors
non mais voilà, non mais c'est pas.
Ça
non,
va
mais
être bien.
Non, ce que je fais, ça va être bien. Ça me promet. Voilà encore un projet qui va me faire souffrir.
C'est ça. En fait, vous avez dit, ça s'est trop bien passé avec les Olympiades. Voilà, et si j'allais trouver un truc compliqué, un truc que j'aime pas.
Non mais ça m'est jamais arrivé. Au départ, c'est un opéra. En fait, j'ai. Et ça, c'est le confinement a frappé fort. Voilà.
On va dire ça comme ça. En tout cas, les Olympiades, c'est en salle. Dès demain, on vous invite chaleureusement à aller le voir, film réalisé par Jacques Audiard et bande-son signée par Rhône. Daniel, des excuses peut-être ?
Bien sûr, déjà désolé pour Rhône et Jacques Audiard, nos invités, qui ont découvert ce matin que sur France Inter, il y avait la touche intrigante, la touche trappenard, la touche culture de Laura Adler et la touche audace de Leïla Kadour Boudadi. Qui est, je cite, très Marc Dorcel. Bah, c'est aussi ça, la diversité. C'est France Inter. Désolé pour Rhône, cette fois, qui nous a confié ce matin qu'il avait été embauché pour composer 26 minutes max de musique et s'est retrouvé à faire 50 minutes. Alors, Rhône, tenez, c'est marrant, mais là, j'ai un appartement à repeindre, ça fait 50 mètres carrés, max. Bon, si ça fait un petit peu plus, on discutera et on négociera. Désolé, toujours pour vous, Rhône. Vous avez apprécié que votre œuvre soit diffusée sur France Inter. Du coup, Rhône regrette que ses musiques ne soient pas plus diffusées en radio. En même temps, camarade, mets des paroles hein, sur tes titres. Mets des couplets, mets des refrains. Et puis, moins long, le single de 93 minutes. Ça passera jamais sur NRJ. Désolé pour Jacques Audiard qui nous a confié ce matin être mal à l'aise avec le bonheur qu'il était en train de vivre. Alors, vous êtes tombé au bon endroit. Car nous ne sommes que doute, souffrance, misère, maladie, affliction et peut-être volupté à la fin. Ça fait mal, mais c'est nous, ça, la douleur. Tiens, puisqu'on parle de douleur et de musique, demain, il y aura Cornillac et Lopez.
Merci Daniel, merci à tous.
Merci,
pour terminer cette émission.
Merci beaucoup.
Les Olympiades, vous souvenez-vous, c'est en salle dès
merci.
Et tout de suite, on a rendez-vous avec les carnets de campagne de Philippe Bertrand.